Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
S'atteler à cette tâche gargantuesque serait désopilant si elle ne concernait pas le chef de l'État le plus puissant du monde, Donald Trump. En effet, à travers un recueil de tweets nombreux et effarants, se dessine le portrait d'un être hors norme, inquiétant et qui paraît être sans aucune limite ni valeur, hormis celle du pouvoir et de l'argent. Cet ouvrage, édité chez Taillandet, s'intitule « Le monde selon Trump » et j'ai le très grand plaisir de recevoir son auteur, Nicole Bacharan. Oui, Nicole Bacharan, bonjour.
Bonjour.
Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, mais je vous présente quand même. Alors, vous êtes historienne politologue, spécialiste de la société américaine et des relations transatlantiques, chercheuse associée à la Fondation d'études de Sciences Po.
Enfin, je ne le suis plus à Sciences Po, je l'ai été longtemps.
Ah, vous
ça
l'avez
n'est pas
été.
Faux.
Bon. Et vous n'êtes plus National Fellow non plus?
Ça, c'est un titre qui reste à vie, mais cette année, je ne travaille pas à Stanford. Mais ouais. Bon, ce sont quand même mes attaches universitaires.
Voilà, vous avez travaillé à l'université de Stanford en Californie.
Tout donc,
mais vous continuez à intervenir régulièrement à la télévision dans des débats, des grandes chaînes de télé, à la radio en France et aux États-Unis, et vous publiez régulièrement des chroniques. Alors il y a pas mal de journaux. Alors moi j'ai regardé ce que j'ai vu, Le Figaro, La Croix, Le Monde, L'Express, Le Point, Libération, Le Parisien. Alors ce que j'ai appris, outre que vous êtes auteur de nombreux essais sur l'Amérique, ça je m'en doutais, de la politique internationale et de romans, et vous écrivez également des romans pour la jeunesse.
Oui, ça je l'ai fait avec mon mari, qui est Dominique Simonet, qui est ancien journaliste, il était rédacteur en chef à l'Express, et éditeur et écrivain, et on s'était vraiment beaucoup amusé à écrire des romans d'apprentissage, c'est-à-dire des aventures, où on apprenait beaucoup de choses, à l'époque où nos enfants sortaient tout juste de l'enfance pour se diriger vers l'adolescence, et on a fait comme ça 4 volumes.
Alors, je dis à nos auditeurs, parce que souvent on nous redit, mais qu'est-ce qu'il y a comme livre à conseiller pour les jeunes? Alors, donc, de Nicole Bacharan et Dominique Simonet, c'est la série Nemo, c'est édité au Seuil.
Voilà, alors il faut demander au Seuil s'ils les ont encore en stock, parce que je n'en suis pas certaine, et ce n'est pas le poisson Nemo. Nos livres non. sont nés avant le poisson Nemo.
D'accord. Alors évidemment, nous ne pourrons pas taire un événement qui vient de se produire aux États-Unis, une procédure d'impeachment lancée contre le président américain semble largement justifiée, mais on se demande ce qu'elle va donner. Voilà. Mais on va tout d'abord parler de votre ouvrage, on parlera ensuite de cet événement. On va parler de ce répertoire des tweets de Trump et qui a été un travail de titan, il me semble, et que vous avez évidemment commenté tout au cours de votre ouvrage. Alors, déjà, ça m'a frappé parce que j'ai entendu ou lu, je ne sais plus, Gérard Haro, qui est un ancien ambassadeur de France
tout
à Washington.
Fait, excellent ambassadeur.
Oui, 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 vraiment original aussi. Oui. Hein, plein de, il dit de lui, de Donald Trump, un vieux roi un peu fantaisiste, imprévisible, mal informé, mais qui veut être le seul à décider. Alors, c'est un égocentriste à pousser à l'extrême.
Oui, alors c'est vrai que pour se dire un jour, souvent pendant beaucoup d'années, je serai le meilleur pour être président des États-Unis ou même pour être président de la France, il faut, c'est vrai, avoir un ego hors du commun. Ça n'est pas surprenant. Mais l'ego hors du commun de Donald Trump va bien au-delà de la moyenne de ses collègues,
oui,
et de ses homologues.
Parce que j'imagine que tous les hommes politiques, et à fortiori les présidents, ont un ego hors du commun.
Il faut un ego très très, ouais. très très fort pour se lancer dans cette aventure. Mais ce qui est très frappant chez Donald Trump, c'est cet ego absolument surdimensionné, puisqu'il clame sans arrêt « je suis le meilleur, je suis le plus riche, c'est moi qui ai fait le plus de succès, personne n'a jamais fait ça avant
mais
moi ».
Je vous interromps, Nicole, ça veut dire qu'il n'a pas de sens de l'humour ?
Pas sur lui, hein. Il a eu très rarement un petit trait d'humour à son endroit. Je me souviens qu'une fois, il était photographié et on voyait ses fameux cheveux, vous savez, de
qui
dos.
Qui volaient au vent.
Et non, là, ils étaient calmes, j'ai envie de dire, mais il a dit quelque chose. Ah, je me donne quand même beaucoup de mal pour obtenir ce résultat. On a pu supposer qu'il voulait être un petit peu drôle. Mais ce que je trouve caractéristique et inquiétant à la fois, c'est que cet ego énorme est extrêmement fragile. C'est quelqu'un qui ne peut pas encaisser la moindre critique, la moindre erreur, il ne peut jamais dire « je me suis trompé ». Et ça, c'est très dangereux. Quelqu'un qui vraiment est très, très fragile dans son sens de qui il est et ce qu'il veut.
Vous voulez dire que ça signifie qu'il est jusqu'au boutiste. Il fera n'importe quoi pour arriver à ses fins.
C'est quelqu'un qui n'a réellement pas de morale, pas de morale du tout.
Ouais.
Et donc, son seul projet, c'est lui-même. Sa gloire, sa richesse, sa célébrité, son succès. Et c'est vrai qu'il identifie les intérêts de son pays aux siens. Il ne fait pas la différence. Donc c'est quelqu'un quand même qu'on peut qualifier de dangereux.
Oui, quand vous dites pas de morale, rien ne se vaut.
Oui, en fait, ce qui m'a intéressée en écrivant ce livre, ça a été surtout de plonger dans le passé de Donald Trump, pas juste les tweets récents que tout le monde connaît, mais les déclarations notamment qu'il faisait à la presse quand il était très jeune, quand il avait 30 ans, qu'il était une espèce de golden boy new-yorkais, un promoteur immobilier à succès. Il s'est créé dans ces années-là.
À succès, mais échec aussi.
Beaucoup d'échecs.
Oui.
Mais il vendait, si j'ose dire, publiquement, de
Bien
grands
sûr.
Succès. Et il s'est créé réellement un personnage médiatique. Et c'est quelqu'un qui allait dans les télés, qui parlait aux journaux, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'a jamais changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est imprévisible, parce qu'au jour le jour, on ne sait pas comment ce tempérament va s'exprimer, mais en réalité, il est entièrement prévisible. À 30 ans, il était pour la peine de mort, il expliquait que les alliés de l'OTAN, notamment, étaient des ennemis qui exploitaient les États-Unis, que ça coûtait trop cher, qu'on payait pour tout le monde, etc., etc. Donc, c'est pas une personnalité qui évolue ou qui apprend.
Oui. Moi, tout au cours de votre ouvrage, j'ai été frappée d'abord par son inculture, son mépris du savoir et des institutions.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être en train de le rattraper là, en ce moment.
Oui.
Mais est-ce que c'est vrai qu'il est... D'abord, il faut quand même se rappeler ou savoir, je ne sais pas, qu'il ne pensait pas gagner cette élection.
Oui, il a été lui-même le premier surpris.
Il a été totalement surpris, je dirais même un peu assommé le soir de cette fameuse victoire. Alors c'est vrai que les analystes, les sondeurs ne le voyaient pas venir, et bien lui non plus, et Barack Obama non plus, et Hillary Clinton non plus. Tout
Personne.
Le monde pensait que même le jour de l'élection, qu'il avait perdu. Mais on ne peut pas dire qu'il se soit documenté entre l'élection de novembre et son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. C'est quelqu'un qui ignorait le fonctionnement des institutions et profondément, ça ne l'intéresse pas.
Et il continue à ne pas être forcément intéressé.
Non, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est comment arriver à ses fins. Et ses fins, au fond, elles sont assez vagues. C'est... avant tout, depuis même le premier jour, être réélu pour montrer que vraiment, il a gagné et regagné.
Et pour arriver à ses fins, il y a une volonté de déstabilisation. Alors, si vous permettez, à moins que ce soit vous, on pourrait lire la première, tout à fait le début de votre ouvrage, « L'Amérique des cowboys », l'homme affole la planète. Et c'est le cas, pardon.
Voilà, je m'empare du livre. Oui, c'est mon introduction parce que Donald Trump étant Donald Trump, en rassemblant et en regroupant ses citations par thème, évidemment, je les ai remises dans leur contexte. Et comme c'est quand même quelqu'un qui ment beaucoup, je suis désolée de devoir le dire, j'ai rétabli la vérité des faits quand il le fallait.
Oui.
Et j'ai essayé de donner du sens, d'inscrire tout ça dans l'histoire américaine, en sachant que Donald Trump, malheureusement, n'est pas une aberration. Il s'inscrit dans un courant social et politique américain.
Donc je
reprends cette première phrase de l'avant-propos que vous me faites l'amitié de vouloir entendre. L'homme affole la planète, ses volte-face inquiètent, ses caprices embarrassent, ses coups de sang effraient jusqu'à son plus proche entourage qui tente en coulisses de les tempérer. Sans cesse en mouvement, toujours en représentation, il prend plaisir à bafouer les usages, mépriser les institutions, briser les alliances et s'admirer dans le miroir de son pouvoir. Il se veut imprévisible. Il est surtout constant dans son amoralité et sa volonté acharnée de déstabilisation.
Alors, vous avez parlé d'un ego surdimensionné, on le comprend sans peine, mais il y a également le mépris des autres. Moi, oui. J'étais effarée de voir ces injures à outrance. Il n'y a jamais eu de plainte contre lui et on n'est pas poursuivi dans ces cas-là ?
Alors, la loi américaine n'est pas du tout la loi française. La plainte pour diffamation est quelque chose de très difficile et de beaucoup plus restreint. Voilà, vous savez que le premier amendement met en avant la liberté d'expression et ça va très 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 loin.
Ouais. Si on suit les... Mais oui, on l'a vu avec Hillary Clinton. Même si on n'est pas pro Hillary Clinton, on pouvait être choqué par les propos qu'il tenait sur elle.
Et c'est vrai que prouver la diffamation dans le cadre de la loi américaine, c'est très difficile. Et se plaindre de la grossièreté des injures, c'est également extrêmement difficile à faire. Oui.
Alors, vous dites qu'il est menteur, oui, c'est super menteur.
Oui, beaucoup.
Mais il met tout en doute et il nie même les évidences. C'est ça qui est incroyable.
Malheureusement, il entraîne son électorat dans cette attitude. Oui. C'est-à-dire que tout est... Il c'est quelqu'un qui colporte les théories du complot les plus folles. C'est quelqu'un qui n'a que mépris pour le savoir et la science. Il ne reconnaît pas, par exemple, la question du dérèglement climatique.
Oui.
C'est un canular inventé par la Chine.
Oui, voilà. Il y a la petite jeune fille là, qui lui a dit, mais croyez les scientifiques, ceux qui connaissent. Et effectivement, lui s'en fiche.
Complètement. Et d'ailleurs, au discours de l'ONU où il a croisé cette jeune activiste, il a vanté le fait que son pays n'avait jamais produit autant de pétrole et de gaz naturel. Donc, par exemple, le réchauffement climatique, il n'y croit pas. Quand il y a eu un ouragan qui a dévasté les Bahamas et qui a heurté aussi la côte sud-est des États-Unis, il avait fait des tweets annonçant les différents États qui devaient prendre des précautions, dont l'Alabama. Ce sont des choses inquiétantes. Moi, j'ai vécu des ouragans aux États-Unis. C'est pas une plaisanterie. On se prépare et on a peur, il faut bien le dire. Et donc, immédiatement, les services de la météo de l'Alabama ont fait un correctif en disant non, l'Alabama ne sera pas impacté. Et on a vu Donald Trump, comme un mauvais élève, affirmer que si, c'était dans les scénarios possibles, montrer une carte où, avec son gros stylo, il avait inclus l'Alabama. Vous savez, comme l'enfant qui triche, mais on voit bien que c'est lui qui a signé son carnet de notes et non pas son père ou sa mère. Et ensuite, il a tenté, je ne sais pas trop où ça en est, de faire renvoyer les gens des services météo qui l'avaient contredit. Bon, heureusement, l'Alabama n'a pas été impacté par l'ouragan.
Énorme. Quand je vous demandais s'il avait de l'humour, je me dis, mais alors, il n'a pas non plus le sens du ridicule quand il dit « Dans toute ma vie, mes deux plus grands atouts ont été la stabilité mentale et le fait d'être, oui, très intelligent. »
Il n'a aucun recul sur soi. C'est quand même extrêmement étonnant. C'est rester un promoteur immobilier qui vous dira « Mon terrain, c'est le meilleur, mon immeuble, c'est le plus beau. »
Oui, mais Nicole Bacharan, il y a peu de promoteurs immobiliers qui soient comme ça, non? Vous ne croyez pas?
C'est un milieu particulier à New York, en tout cas. C'est un milieu assez brutal. Et au-delà de ça, c'est resté, après le promoteur, c'est resté un personnage de télé-réalité.
Oui. Où il animait une 14 émission.
Ans, ouais. 14 ans, 14 saisons de télé-réalité où il animait cette émission qui s'appelait The Apprentice, l'apprenti, et où il jouait son rôle. Il s'appelait Donald Trump et il était dans cette série un grand patron qui jugeait des concurrents qui devaient se démolir les uns les autres pour essayer à la fin d'obtenir un poste dans les entreprises Trump. Et il avait cette phrase célèbre toujours à la fin de l'épisode, « You are fired, vous êtes viré ». Et les gens ont confondu ce personnage de télé-réalité qui était écrit, il y avait un script, donc un grand patron ferme, dur, mais juste et qui ne se trompe jamais, avec le vrai Donald Trump. Mm-hmm. Mais non, c'est pas du tout ça le vrai Donald Trump. Mais il est le même à la Maison-Blanche. D'ailleurs, c'est un des propos que je rapporte. Il a dit, en arrivant à la Maison-Blanche, à son staff, à son équipe, concevez chaque jour de ma présidence comme un épisode d'un feuilleton où je vainque tous mes concurrents. Voilà, voilà son système.
Alors, quand il dit dans toute ma vie, mes deux plus grands atouts ont été la stabilité mentale et le fait d'être, très intelligent, j'ai deux questions. justement, est-il doté d'une grande stabilité mentale ?
Non, quand même pas. Je pense qu'on voit quand même que c'est quelqu'un de très colérique. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait peur à son entourage. Il est très massif physiquement et il pique des colères énormes. Mais alors, la stabilité mentale, on peut dire qu'il en a une certaine forme, puisqu'au fond, il ne change jamais profondément d'avis. Il change au jour le jour à la marge. Mais en même temps, il prend des décisions très brusques, sans respecter en rien le système politique américain, qui est un système très, très construit et très, très compliqué. Par exemple, normalement, une décision de politique étrangère, il y a des directions qui sont données, notamment au Conseil national de sécurité. Ça redescend tous les échelons d'une énorme administration. Chacun donne son point de vue. Chacun ajoute une idée supplémentaire. Et tout ça est filtré, refiltré, 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 et n'arrive sur le bureau du président que les décisions font les plus difficiles, qui n'ont pas pu être prises en amont. Très souvent, il ignore entièrement ce fonctionnement-là, qui malgré tout est une forme de sécurité, et il lance des avions pour attaquer l'Iran, et puis non, il met au sol les avions qui devaient partir. Donc stabilité mentale, il est peut-être relativement stable, mais il est quand même très impulsif.
Mon autre question, est-il si intelligent que ça ?
Vous savez, c'est une question.
Oui, quelle est la définition de l'intelligence ?
Qu'on m'a beaucoup posée au moment de l'élection, parce que je l'avoue, je n'étais pas ravie de cette élection, allez, disons-le. Et beaucoup de gens disaient, quand même, il a gagné l'élection, ce qui est vrai. Et quand même, on ne peut pas être vraiment stupide en étant capable de gagner tellement d'argent et de mettre par terre la machine politique que représentent Hillary Clinton et son mari. Donc, vous le disiez très justement, il y a quand même beaucoup de formes d'intelligence. Je pense que Donald Trump est très malin, qu'il a un sens aigu de ses intérêts, qu'il a une grande capacité à capter, à percevoir l'humeur d'une certaine partie du peuple américain, et à amplifier des doutes, des colères, des frustrations qu'il n'a pas inventées, mais qu'il a vraiment, vraiment amplifié. Et donc, il a une forme, il a son intelligence à lui. C'est pas l'intelligence
d'un homme
cultivé. C'est même pas l'intelligence d'un homme cultivé dans le domaine politique ou géopolitique. Mais il a de l'instinct, ça c'est vrai. Bon, on peut aussi considérer que c'est quand même très limité. Je pense que peut-être l'angle vraiment noir de son intelligence, qui est quand même une capacité à comprendre le monde, c'est qu'il n'a absolument aucune empathie. Et bien sûr, un président, encore une fois, il est centré sur lui, sur son élection, ses intérêts, tout ça est normal. Mais aucune empathie, aucune, zéro, 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 c'est une grande faiblesse pour comprendre le monde et les autres.
Oui. Alors, je vais vous citer, je vous ai dit en antenne que j'avais reçu le mail d'une personne, une universitaire de Chicago. Elle dit « Les universitaires sont divisés comme tout le pays. Il y a des conservateurs qui semblent assez satisfaits de lui, mais la vaste majorité le trouve inadmissible, répugnant, vulgaire et malhonnête. » Là, vraiment, enterré. Et vous dites « Aux États-Unis, le débat politique aujourd'hui est très pauvre. Les gens ne sont pas d'accord sur les faits, sur les valeurs fondamentales, mais cela va plus loin. Je n'ai jamais vu depuis la guerre de sécession le pays aussi divisé. »
Alors, je n'étais pas là pendant la guerre de sécession.
Oui, j'imagine.
Mais c'est une période que j'ai
que vous avez étudié, évidemment.
Beaucoup, et d'autant plus que c'est une période dont les traces sont encore perceptibles. Évidemment, l'héritage évolue, mais l'héritage ne disparaît pas. En France aussi, on a une histoire qui n'est pas glorieuse à certains moments et dont on peut tirer les fils jusqu'à aujourd'hui. Il y a chaque pays porte comme ça son histoire nationale. Et c'est vrai que là...
Vous dites que c'est l'un des visages de l'Amérique.
Oui, absolument.
Ça, c'est intéressant. Vous voyez ça, j'avais pas du tout pensé qu'en effet, il était le reflet de quelque chose.
Oui, et je me souviens très bien qu'au lendemain de cette élection qui a consterné beaucoup de gens, y compris des conservateurs,
des républicains.
Moi, à Stanford, là où je travaillais, donc à la Hoover Institution, c'est un institut vraiment authentiquement républicain de tradition. Beaucoup de mes collègues n'ont pas voté Trump, Et certains ont voté Hillary et certains n'ont pas voté parce qu'ils ne reconnaissent pas
ni l'un ni l'autre,
ni le Parti républicain, ni le conservatisme tel qu'ils le conçoivent. Et on s'est beaucoup interrogé sur évidemment ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas compris. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a depuis bien longtemps aux États-Unis un courant démocrate qu'on peut qualifier de assez social, assez progressiste à certains égards, un parti républicain qui depuis longtemps est plus conservateur, libre-échangiste.
Il faut dire peut-être à nos auditeurs que, excusez-moi je vous interromps, c'est que le parti démocrate qu'on aurait tendance à mettre à gauche, il est pas du tout, il correspond pas du tout à la gauche en France.
Alors, en pas général, vraiment. Non. En général, vous avez totalement raison, sauf que il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre il se scinde ce parti démocrate. Mais c'est vrai que traditionnellement, jusqu'à il y a quelques années, c'était disons des sociaux-démocrates à l'allemande plutôt. Oui. Donc honnêtement, autrefois le parti l'UMP d'autrefois, En Marche d'aujourd'hui, c'était pas loin du parti démocrate. Mais c'est vrai que outre ces partis traditionnels, il y a quand même toujours eu, au fond, aux États-Unis, ce que j'ai appelé, pour imager un petit peu, cette Amérique du cow-boy. Rien contre les cow-boys, j'en ai
des
bien
des pionniers
connu.
Aussi.
Voilà,
ouais.
cette Amérique, un courant, disons, qu'on va placer, allez, soyons francs, à l'extrême droite. En Europe, ce serait l'extrême droite. Violent, raciste, paranoïaque. Et ça a toujours existé, simplement ça n'était pas sur le devant de la scène. Et il y a eu des périodes où c'est venu sur le devant de la scène.
Et vous disiez que la phrase était le mot d'ordre, ma femme, mon cheval et mon fusil.
Oui, en gros c'est ça, et on voit que c'est pas mort, hein, quand vous voyez les débats autour du port d'armes. Mais si on reprend, il y a au fondement des États-Unis, il y a la passion de la liberté, la constitution, etc. Et en même temps... Excusez-moi de cette expression un peu usée. En même temps, il y a l'esclavage et le massacre des Indiens. C'est un pays qui est fondé sur le racisme et la violence et sur la passion de la liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, on tire ces deux fils.
Oui, oui voilà. Alors, comme vous dites, il y a quand même cette histoire de racisme. Il y a encore des adeptes, je pense, du Ku Klux Klan.
Oui.
Bon, il y a tous ces petits blancs, bon, ça ne veut pas être péjoratif, mais ceux qui n'ont pas réussi se sentent laissés pour compte. On fait un peu l'amalgame avec nos gilets jaunes, ceux qui sont dans les campagnes et dont on ne parle pas assez et dont on ne s'occupe pas assez. Et puis, ces partisans du America Great Again, non ?
Oui, c'est vrai que, honnêtement, l'électorat de Donald Trump, les revendications des Gilets jaunes, pour autant qu'on puisse les grouper comme si c'était un tout, mais enfin, j'essaye de simplifier un peu, et l'électorat du Front National, ça se ressemble quand même beaucoup. Et ce sont effectivement, généralement, des blancs qui ont des moyens modestes, généralement pas au chômage, d'autant moins aux États-Unis qui sont quasiment au plein emploi. Ça, c'est une des réussites de Donald Trump et on ne peut pas le nier pour l'instant.
Sur le plan économique, voilà. Ça marche.
Exactement. Il y a des fragilités, mais grosso modo, vraiment, ça marche. Et pour simplifier beaucoup les choses, je dirais que les baisses d'impôts, au moins dans un premier temps, ça marche. Mmh. Et c'est vrai que ça a quand même accéléré, disons, une croissance américaine qui était déjà présente.
Et maintenu sa popularité.
Oui, et je pense que une crise économique, alors moi je suis pas économiste, j'essaie évidemment de suivre ça le mieux possible. Tout le monde annonce une récession prochaine, et puis elle ne vient pas, j'espère qu'elle viendra pas d'ailleurs, mais c'est vrai que ça pourrait être fatal à Donald Trump.
Oui, alors oui, c'est ça, les économistes disent qu'à long terme, bon, ça risque de ne pas... Bon, on va pas tabler là-dessus.
Voilà, ça on ne peut savoir, pas moi en tout cas.
Tous les républicains, donc vous nous l'avez dit d'ailleurs, mais au moment du vote, des élections, mais actuellement, tous les républicains soutiennent-ils Donald Trump ?
Ils le soutiennent, contraints et forcés.
Pour se maintenir, eux.
Exactement. Alors, il n'y a pas d'affection entre eux. Je crois que, franchement, je ne pense pas que Donald Trump ait un seul ami au Congrès. Je ne pense pas que Donald Trump ait des amis. D'ailleurs, il considère les gens comme des obstacles ou des objets, en gros.
Il en a beaucoup licencié et limogé. Hein.
Ça, tout le monde part et il faut, alors il y a une espèce de, comment on appelle ça en français, de les portes qui tournent, vous savez, de portes à tambour, et ça rentre et ça sort en continuation, et il faut quand même bien dire que c'est pas juste moi qui suis mauvaise langue, que les gens qui quittent la Maison Blanche disent pratiquement tous en sortant, il n'est pas capable d'être président des États-Unis. Il n'est pas à la hauteur de cette fonction. J'ai envie de leur dire, pourquoi y êtes-vous allé ? Mais ça, c'est encore une autre question. Mais le Parti républicain, pour en revenir à eux, le soir de l'élection, donc en novembre 2016, ils étaient sûrs d'avoir tout perdu. La Maison Blanche, les deux chambres du Congrès et la Cour suprême. À minuit, ils réalisent qu'ils ont tout gagné.
Ouais.
Donald Trump à la Maison Blanche, les deux chambres du Congrès, bon, ils en ont perdu une entre-temps, et évidemment, la perspective de plusieurs juges conservateurs, ultra-conservateurs à la Cour suprême. Donc, ils lui doivent tout. Et vous avez un certain nombre de gens qui ont abandonné la politique dans le Parti républicain parce qu'ils sont trop en désaccord avec ce qui se passe à l'intérieur de ce parti. Mais les autres, même ceux qui ne sont pas forcément tout à fait d'accord sur le fond, parce que les perspectives de Donald Trump ne sont pas les leurs, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont les mêmes électeurs. Et tant que Donald Trump est populaire auprès de ses électeurs qu'ils appellent sa base, les élus du Congrès républicains n'ont pas d'autre endroit où aller.
Alors, Nicole Bacharan, il y a quand même la question que se posent les Français, en règle générale, c'est comment les électeurs américains ont-ils pu passer du président
Barack Obama,
à Donald Trump. Parce que vraiment, c'est le grand écart.
C'est absolument le grand écart. Et je ne vais pas faire de Barack Obama un président
idéal,
sain et sans peur et sans reproche. Je pense qu'on peut dire, grosso modo, qu'il a eu vraiment un bon bilan intérieur, puisqu'il a repris le pays dans une période de crise terrible, et un bilan extérieur quand même très, très mitigé. Mais, d'abord, il était noir, ce qui était un prodige dans l'histoire américaine, vraiment une étape franchie, et elle a été franchie. Ça veut dire que ça reste toujours possible, mais enfin, c'était quelqu'un de très calme, on l'appelait, vous savez, no drama Obama, pas de drame, hein, pas de mélo, on ne s'agite pas, très calme, très cool, extrêmement réfléchi.
Cultivé.
Très cultivé, qui tous les jours lisait non seulement les rapports de son administration, mais des livres, de la littérature, enfin. Et dont on ressentait la très profonde intelligence et le très profond sens des responsabilités. C'est-à-dire, on pouvait ne pas être d'accord avec lui. Mais on savait qu'il n'allait pas prendre une décision par ignorance ou par crise de nerfs, disons. Et donc, après, Donald Trump, le même pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il faut dire que l'élection de Donald Trump est quand même une réaction à la présidence de Barack Obama. C'est un des éléments qui a joué. Sous Barack Obama, on n'a jamais vu autant de groupes d'extrême droite racistes se développer. Ces groupes-là, ils existaient avant, mais ils sont devenus beaucoup plus nombreux pendant la présidence de Barack Obama. Et il y a beaucoup d'électeurs de Donald Trump, pas tous, il ne faut pas être injuste, pas tous, qui n'acceptaient pas qu'il y ait un noir à la Maison Blanche, qui pensaient que c'était vraiment le signe que le destin américain faisait fausse route, que le pays allait dans le mur, que c'était une chose épouvantable. Donc, certains, Obama a été leur raison de voter Trump, parce que c'est l'anti-Obama.
Alors, Nicole Bacharan, je vous propose une pause musicale. Je l'ai choisi. C'est un chant, je crois, un morceau de musique relativement ancien. Enfin, ça doit appartenir au Cowboy. Vous me direz ça. C'est Colorado Trail, je crois. Thank you.
Auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous étions un instant dans le Colorado et je pense que cette partie, ces contrées-là ont voté massivement pour Trump, puisque on disait que c'était la lisière, c'était les côtes, que ce soit la Californie, que ce soit toute la côte Est, même Chicago, ont voté, elles, les grandes villes peut-être, ont voté pour d'autres candidats. À part les démocrates, qui soutiennent Trump? Alors, on a parlé des fanatiques religieux. Qui sont-ils, ces gens?
Oui, déjà, si vous me le permettez juste un instant, je voudrais dire que j'ai vraiment aimé ce morceau de musique que vous avez choisi, parce que quand je parle de l'Amérique du cow-boy, c'est pour faire une métaphore, mais c'est certainement pas pour
critiquer,
jeter l'opprobre sur les cow-boys, les vrais, les vachers qui s'occupent du bétail là-bas. Et moi, j'ai longtemps vécu au Texas, un état que j'ai beaucoup aimé, et je rendais visite à ma sœur qui, elle, pendant pas mal d'années, vivait dans le Wyoming. On a vu des rodéos, etc. Et c'est pas un monde du tout affreux, enfin. Et c'est vrai que avant l'élection de Donald Trump, enfin moi, dans cette Amérique dite profonde, loin des côtes, on rencontre énormément de gens extrêmement sympathiques, chaleureux, toujours prêts à vous aider. Mais je trouve que les différences de point de vue se sont beaucoup creusées, un peu avant Trump et beaucoup depuis Trump. Et donc, je parlais des gens malheureusement racistes, mais aussi des fanatiques religieux, des évangéliques très, très, très pratiquants et très, très, très conservateurs. Donc ce sont des blancs protestants qui ont quand même des thèses assez particulières, hein, qui pensent que Dieu a créé la Terre en 7 jours, mais enfin en 7 périodes brèves, qu'il faut prendre vraiment la Bible au sens absolument littéral, qu'il y a un plan pour la seconde venue du Messie, tous les Juifs doivent être rassemblés en Israël et se convertir à ce moment-là, quand Jésus reviendra. Et s'ils ne se convertissent pas, ils iront tous en enfer. Ce sont des gens qui sont très, très militants anti-avortement, anti-contraception et également partisans du port d'armes. Donc leur vision et de la peine de mort en général. Donc leur vision de protéger la vie, elle peut être quand même, à certains égards, surprenante. Ces gens-là sont très à cheval sur la vertu. Or, ils ont choisi Donald Trump, qui n'est pas quand même, allez, soyons pas méchants, un paragon de vertu. Que s'est-il passé? Il leur a dit exactement ce qu'ils voulaient entendre et il a tenu parole. C'est en gros, il a dit et il a fait qu'il nommerait des juges fédéraux, il y en a beaucoup, et des juges à la Cour suprême, ultra-conservateurs, anti-avortement, anti-mariage gay. Et ça, il le fait, il tient parole, et les évangéliques, donc qui sont ces protestants ultra-conservateurs, vous diront, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il a choisi Donald Trump.
D'accord. Voilà. Alors, il y a ces fanatiques religieux et également, on en parlait également, donc tous ceux et de l'Amérique profonde, à savoir certains paysans. J'avais été étonnée de voir, pas très loin de Boston, qui est quand même une ville riche, pas très loin au nord de Boston, voir des villages pauvres.
Oui. Et c'est vrai que la prospérité américaine, il faut la regarder de loin. Elle existe, bien sûr. Et c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, il y a un peu une concurrence des employeurs pour trouver des employés, donc les salaires montent un peu. Mais le taux de pauvreté, il est toujours autour de 12%. Alors peut-être qu'en ce moment, il baisse jusqu'à vers 10%, mais il y a toujours une vraie pauvreté en Amérique. Et souvenez-vous, c'est un petit peu loin, mais en 2005, au moment de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, tous ces pauvres gens qu'on a vus abandonnés dans la ville, oui, perchés sur des toits, oui, essayant de sauver leur vie et le peu de choses qu'ils avaient. Et c'était au moment de la présidence de George Bush et George W. Bush, et il ne s'en est jamais relevé de ces erreurs à ce moment-là.
Oui, parce que là, c'était en plus au vu de tout le monde,
voilà,
du monde
c'était
entier.
C'était rassemblé, c'était le quart monde rassemblé aux abords d'une ville américaine. Et je me souviens que le chef de l'agence de secours pour les catastrophes naturelles avait dit « Nous avons vu sortir des gens dont on ne savait même pas qu'ils existaient. » Oui, et il a dit la vérité, et ça a été tragique. Parce qu'en gros, les consignes étaient « quitter la ville ».
Oui, c'est ça. Et en sens de préoccuper de savoir s'ils pouvaient quitter.
Voilà.
Tout le monde pouvait
et
quitter
or, il y avait des gens,
qui n'avaient pas de voiture,
qui, s'ils avaient une voiture, n'avaient pas de moyen de mettre du carburant dedans, qui, s'ils avaient et une voiture et du carburant, n'avaient absolument pas les moyens de payer une chambre quelque part, même modeste, même en entassant toute la famille dedans. Tous ces quartiers où les services publics, je parle de la voirie, des poubelles, de tout cela, ne passent plus depuis très longtemps, où les écoles sont lamentables, où on est plus ou moins analphabète de génération en génération, il y a une racine de très grande pauvreté qu'aucun programme social n'a réussi à entamer.
Même encore ?
Même encore. Et je me souviens que c'était un des projets de Barack Obama, dont on se souvient peut-être qu'il a démarré sa carrière publique en étant travailleur social, donc la question de la pauvreté était au cœur de ses préoccupations, il avait beaucoup de programmes pour justement reconstruire ses quartiers. Et puis tout ça a été embarqué par la crise économique de 2007-2008, et il n'a pas pu réaliser cela. Ceci étant, si en France, par exemple, on voyait tout d'un coup rassembler en un seul lieu la grande misère, je pense qu'on aurait de tristes surprises.
Alors, on voit quand même que sur le plan économique, Trump s'en tire pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chômage malgré tout par rapport
à
la
France. Non, c'est très bas. On est à 3,2, donc c'est le plein emploi en gros.
Mais sur le plan international, il me semble que déjà avec la Corée du Nord, c'est le fiasco. Et puis avec l'Iran, il se trouve que nous connaissons bien l'Iran. On a affaire à de fins stratèges en Iran. Ce sont les rois des échecs.
Absolument. Et il y a une chose qu'ils ont bien comprise, c'est que Donald Trump, après avoir menacé la Corée du Nord d'éradication totale, à la tribune des Nations Unies quand même, eh bien, il est finalement extrêmement gentil avec la Corée du Nord. Il leur passe tout pour l'instant, on verra où ça nous mène, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas du tout le premier pas de dénucléarisation. Oui. Et il affirme que Kim Jong-un est un homme formidable, donc il aime beaucoup. Et donc, ce qui veut dire que si on a l'arme nucléaire, Donald Trump, au fond, ne vous embête pas trop. Si on ne l'a pas encore, comme les Iraniens, il leur mène la vie extrêmement dure. Donc, quelle conclusion en tirer ? Et c'est vrai que le point de vue de Donald Trump sur l'accord sur le nucléaire iranien, il n'était pas le seul à penser comme ça. Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'est pas très loin du même point de vue, à savoir qu'il y avait un accord pour limiter l'accès à l'arme nucléaire, mais enfin, ça ne durait que 10 ans. Et puis, il n'y avait rien sur la poursuite du programme balistique, celui qui permet de lancer éventuellement des armes nucléaires, et rien non plus sur l'influence de l'Iran dans la région, avec le Hezbollah, le Hamas, les Bachar al-Assad, le rôle en Irak, etc. Donc, les faiblesses de l'accord, elles étaient là. Donald Trump a dit et répété que c'était un accord affreux, épouvantable, dégoûtant même, disait-il. Et donc, il en est sorti en disant qu'il allait en faire un bien meilleur. Sauf que les Iraniens ne veulent pas jouer. Ils ne veulent pas jouer à ce jeu-là. Et donc, il n'y a pas de négociation. Et que les sanctions supplémentaires ajoutées par Donald Trump ne font qu'une chose, c'est renforcer les plus durs du régime iranien. Les Iraniens n'attribuent pas leur malheur au plus dur de leur régime. Ils les attribuent au président américain. Oui. On pourrait aller voir le fond des choses, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui progresse.
Et le problème, on l'avait vu déjà avec l'Irak, mais le problème, c'est qu'il est en train de déstabiliser une partie du monde.
Oui, et déjà que le Moyen-Orient, honnêtement, c'est pas très stable.
Mais non, mais depuis l'Irak.
Ouais, c'est très compliqué, parce que comment dire, les Américains sont allés en Irak avec le résultat que l'on sait.
Oui, et en sachant que les Français, pour une fois, avaient fait, enfin pour une fois, je sais, n'avaient pas voulu.
Il y a une coalition internationale qui est allée en Libye. Alors, les Américains sont allés en Irak et ils ont tenté de reconstruire le pays. Les Français et d'autres sont allés en Libye et sont repartis très vite et n'ont pas tenté de reconstruire le pays.
En Afghanistan, personne, ce sont les talibans.
Personne n'est intervenu. En Syrie, et nous avons un désastre. Ouais. Donc en trois méthodes et trois désastres. Donc c'est pas comme si on pouvait dire voilà ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que Donald Trump, lui, a, comme il aime à le faire, il a simplifié les choses. Il a deux alliés, l'Arabie Saoudite et Israël, la Jordanie aussi un peu. L'Égypte et puis et un grand méchant qui est l'Iran. Et c'est juste un peu plus compliqué que ça.
Oui, tout à fait. Alors revenons-en aux tweets. Alors ils sont tous annotés, situés, datés.
Ah oui, j'ai tout vérifié, mais tout. Je peux vous dire où il a parlé, quand il a parlé, et c'est moi qui ai fait toutes les traductions. Et si parfois c'est bizarre, c'est parce que parfois il parle bizarrement.
Il parle très bizarrement, avec un vocabulaire très restreint. Alors, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous pensez qu'il parle comme ça?
Oui, et c'est même très inquiétant, je vais vous dire, parce que quand moi, puisque j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec lui virtuellement, quand il s'exprimait à 30 ou 40 ans, il parlait beaucoup mieux. Ah oui. Il avait beaucoup plus de vocabulaire. Il n'était pas très sympathique, je dirais pas ça, mais enfin, il s'exprimait normalement, calmement, et avec un vocabulaire tout à fait normal.
Ou alors il fait ceux qui croient être du populisme, peut-être, en parlant.
Je ne crois pas qu'il puisse faire mieux, franchement, parce que quand il est devant des caméras, et que les seuls mots qu'il a, c'est beautiful and great.
Great, oui, vous êtes extraordinaire.
C'est quand même. Enfin, si on l'écoute vraiment, c'est très, très restreint. Il perd du vocabulaire. Voilà. Après, moi, je ne suis pas ni psychiatre, ni médecin, donc je n'irai pas plus loin.
Alors, la quantité de tweets, c'est assez effarant, mais ça a été dit et redit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est son seul mode d'expression?
En tout cas, c'est le mode d'expression qui lui correspond le mieux et qui est très efficace pour lui. Alors là, vraiment, il sait s'en servir. Si on observe ses points de vue sur le monde, sur les mondes, sur les alliances, sur la politique, sur les femmes, etc., on a le sentiment que c'est quand même un homme des années 50. Un homme de la télé, il voudrait bien revenir en arrière, que les femmes filent doux, qu'elles ne nous embêtent pas, en gros, et qu'on revienne au charbon. Mais cet homme des années 50, il a adopté ce mode de communication du tweet. Il a lancé son premier tweet en 2009. Et franchement, sur le plan de l'efficacité, c'est imparable. Ça lui va très bien. C'est très court. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire. Il dit volontiers de lui-même.
Et il y a des gens qui ne lisent que ça.
Voilà, je suis le Ernest Hemingway des 140 signes, parce que quand même, il a une certaine vision de soi. Et c'est très simple. Vous ne pouvez pas communiquer des idées complexes. Mais il dit tout le temps... Ça me permet de court-circuiter les médias. Il est tout le temps devant la télé, il passe beaucoup de temps devant la télé.
On va pouvoir dire un mot.
Et il réagit à la télé par tweet. Et donc, son tweet rentre dans la télé. On commente le tweet.
Alors, les termes récurrents, évidemment, c'est moi, le pouvoir, l'argent, son pouvoir de séduction aussi. Ou alors, on lui en veut, on veut l'abattre, les gens sont méchants. Voilà. Alors, sur les femmes... J'ai pris quelques thèmes, parce qu'on peut vraiment, il y en a beaucoup. Les femmes, elles sont des objets sexuels. En fond, on se moque de leur physique, de leur âge. Moi, j'ai été effarée. C'est des propos vraiment du fond des dégoûts.
Ah, c'est immonde.
Ah oui.
C'est franchement immonde.
Ah oui, oui, oui. La vérité, fake news, oui, tout ce qui se dit contre lui fait partie d'un complot. Il met tout en doute quand ça ne va pas dans son sens. Alors, la suspicion. Systématiquement, on est un peu ahuri. Alors, sur la religion, et oui, tout à l'heure, vous avez parlé des évangéliques qui l'ont sens, et puis voilà, il a la prière à la bouche, comme vous dites. En plus, ce n'est vraiment pas un enfant de cœur, lui.
Pas vraiment.
Pas vraiment, et plutôt violent. Bon, et alors, les relations avec la presse, évidemment, là, je crois qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais évidemment, il a quelques grandes chaînes, dans le nez, ou dans les journaux, des journaux aussi, qui ne valent rien et qui sont au bord de la faillite, selon lui.
Sans arrêt, le New York Times, le Washington Post, le CNN.
Il ne respecte rien ni personne, en fait.
Et Fox News, chaîne ultra-conservatrice, qui était sa chaîne préférée, ses meilleurs amis, il téléphone pendant les programmes pour intervenir, etc. Tout d'un coup, on voit la TIPA qu'ils ont publié un sondage assez récemment qui lui était défavorable. Parce que quand même, Fox News publie de vrais sondages. Eh bien, depuis...
Ils n'en reparlent plus.
Et voilà, Fox News, là, ce sont des menteurs, ces sondages ne sont pas vrais, etc.
C'est assez étonnant. Alors, Nicole Bacharan, on n'a plus que quelques minutes pour parler d'un événement qui s'est produit très récemment à la Maison-Blanche, qui risque de mettre en suspens la vie politique du pays. Je n'en sais rien, vous allez me dire. Alors, vous pouvez dire en quelques mots ce qui s'est passé.
La Chambre des représentants, qui a une majorité démocrate, a décidé de commencer une procédure d'impeachment, c'est-à-dire la première étape pour éventuellement, peut-être, aller à la destitution de Donald Trump.
C'est une sorte de mise en examen ?
Oui, mais politique.
D'accord.
On peut dire ça. Voilà, il y a enquête. Si l'enquête se révèle fructueuse, il y aura rédaction de ce qu'on appelle les articles d'impeachment, qu'on pourrait appeler chef d'accusation, qui serait voté à la majorité simple à la Chambre. Et à ce moment-là, ça passe au Sénat. Et le Sénat, dans son ensemble, se transforme en tribunal. Et là, de la destitution éventuelle du président devrait être votée à la majorité des deux tiers. Donald Trump ayant une majorité républicaine au Sénat, cela semble très peu probable.
Donc ça va être un coup d'épée dans l'eau.
On verra, mais vous savez, on n'est qu'au début, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, ça peut révéler des choses beaucoup plus importantes que ce que l'on sait aujourd'hui. Le fond de l'affaire, c'est est-ce que le président des États-Unis a... enrôlé, si j'ose dire, fait appel à un pays étranger,
en l'occurrence l'Ukraine, avec le nouveau président.
À des fins politiques personnelles.
Oui, alors, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, ce qui s'était passé avec la Russie, il y avait eu un problème,
déjà.
Mais il n'était pas encore président.
Il n'était pas encore président.
Oui.
Quand il lançait, par exemple, dans ses meetings, « Et vous, la Russie, là, si vous écoutez, vous ne pouvez pas nous retrouver les 30 000 emails manquants d'Hillary Clinton », il y a des tas de gens qui vont dire « Oh, il ne faut pas prendre ça au sérieux. » Si, il faut prendre ça au sérieux, c'est totalement illégal. Mais il n'était pas président. Maintenant, et là je parle avec que des si il a conditionné l'attribution d'aide militaire à l'Ukraine au fait que l'Ukraine poursuive une enquête pour démolir Joe Biden, dont le fils faisait des affaires en Ukraine. Donc si Donald Trump se sert de la machine d'État américaine pour obtenir d'une puissance étrangère, en gros, qu'elle l'aide dans sa propre élection, là, on a une vraie affaire d'État.
Donc là, c'est une affaire qui va durer quelques mois, quand même.
Oui, ça va durer quelques mois. Et comme vous le disiez, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, ou ça peut, au contraire, devenir le Watergate, je ne sais pas.
Est-ce que vous pensez que il est un danger, en fait, pour la paix dans le monde ? Alors, je ne parlerai pas de l'écologie ou de choses, parce que j'ai l'impression qu'ils s'en fichent royalement.
Et ça, c'est un danger, déjà.
Ouais.
C'est un danger.
Ouais.
Oui, je pense que c'est un danger pour la paix dans le monde. Non pas qu'il veuille la guerre. Donald Trump, profondément, ne veut pas de guerre. Mais déjà, il peut, sans l'avoir voulu, par réaction d'un autre pays, provoquer une guerre. Parce qu'à force de menacer... Il se peut très bien que quelqu'un en face réagisse mal et mette le doigt dans l'engrenage d'une guerre. Et puis, par ailleurs, il affaiblit, il déstabilise sans arrêt les alliances. Et les alliances, c'est quand même ce qu'il y a eu de mieux depuis 1945 pour assurer une relative stabilité. Et quand on voit que, avec Donald Trump, le président des États-Unis est quand même considéré comme un bouffon à travers le monde, les gens s'en moquent, je parle des autres leaders, et ils savent qu'ils peuvent obtenir beaucoup de choses en le flattant. Ils n'ont plus de respect pour les États-Unis. Et ils n'ont plus peur des États-Unis. On a bien compris que Donald Trump ne voulait pas aller à la guerre. Donc il a une énorme machine militaire derrière lui. Mais on sait qu'a priori, il aimerait mieux ne pas s'en servir.
Parce qu'il sait que la population ne veut pas de guerre aussi.
Oui, et pour lui, c'est de l'argent perdu. Vous savez, tout est question monnaie. D'argent.
Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'il est quand même arrivé en promettant de mettre fin aux guerres lointaines, il y en a plusieurs, et Barack Obama aussi, d'ailleurs, promettait de mettre fin à ces guerres lointaines avec des points de vue plus complexes, mais finalement qui arrivaient à la même perspective. Donc, quand on voit par exemple le président indien, Modi, qui, en gros, dit, moi je fais ce que je veux avec les gens du Cachemire, c'est des musulmans, et c'est pas bien, et vous n'avez pas à vous en mêler. Autrefois, le président des États-Unis pouvait avoir un impact, notamment parce que l'Inde est un allié, il y a des tas de relations, aussi financières, militaires, etc. Aujourd'hui, zéro. Donald Trump, d'abord, ça ne le dérange pas, faites ce que vous voulez chez vous, et il n'y a plus de leadership moral américain. Plus,
voilà, voilà. On va s'arrêter là, malheureusement, vous aviez plein de choses.
Ce fut un plaisir.
Alors, Nicole Bacharan, un grand merci pour ce livre aussi, l'entretien, bien sûr, et Le Monde selon Trump, aux éditions
Talendier,
voilà. Et puis, écoutez, il ne nous reste plus qu'à attendre, voir comment évoluent ces événements. Un grand merci.